Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, je vous invite à reprendre vos places. Oui. Voilà, le thème est la polyphonie, mais il faudrait qu'elle s'exerce à la table et non pas dans la salle. Donc, je vous invite à terminer vos conversations. Voilà, j'ai donc le plaisir et le privilège, comme le veut la formule, de clore ces deux journées consacrées à cet anniversaire autour du Centre d'Histoire Culturelle, avec cette dernière table ronde consacrée à l'histoire polyphonique, un terme qui a suscité la curiosité qui a intrigué aussi parmi les différents représentants de cette table ronde. Donc je ne vais pas proposer ici ma propre définition, ma propre vision de l'histoire polyphonique ou de l'histoire culturelle comme histoire polyphonique. Je vais laisser le soin aux différents participants de jouer d'abord leur partition en soliste, en présentant pendant une dizaine de minutes leur champ de recherche et en essayant de l'arrimer donc aux mots-clés de la table ronde. Et puis ensuite, on essayera, je pense, collectivement, sous ma baguette, puisque c'est mon rôle, d'entamer également une discussion plus générale. Donc je vais présenter de manière globale l'ensemble des participants que je remercie déjà au nom des organisateurs pour avoir accepté de jouer ce jeu. Alors ici à ma droite, Gianni Giardino qui est physicien, maître de conférence au département de physique à l'UFR des sciences de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Donc on verra comment celui-ci fait le lien avec cette table ronde. Il est également directeur du master professionnel d'ingénierie de la culture et de la communication, intitulé « Médiation des savoirs scientifiques, organisation d'événements et d'espaces culturels ». Je lui donnerai la parole en premier. Ensuite, malgré la malséance de genre, mais tout simplement par ordre alphabétique, nous aurons Serge Linares. Serge Linares, qui est agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres et HDR de l'Université de Paris 4 Sorbonne, qui a été maître de conférence en littérature française à l'université de Valenciennes, puis à l'université de Rouen, et qui est depuis une année professeur en littérature française du XXe siècle à l'université de Versailles-Saint-Quentin, et qui a notamment passablement travaillé sur Cocteau. Je ne sais si l'on parlera dans sa communication. À ma droite, Géraldine Peuls, qui est à terre, qui est doctorante et qui prépare une thèse intitulée « Naissance du téléspectateur, une histoire de la réception télévisuelle des années 1950 aux années 1980 ». Elle est également membre du comité d'histoire de la télévision et du comité de rédaction de la revue Le Temps des médias, dont on a parlé lors de la table ronde précédente. Et puis, terminera les interventions Julie Verlaine, qui est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris 1, qui a soutenu une thèse en fin 2008 sous la direction notamment de Pascal Horry, puisque c'était une co-tutelle, sur les galeries d'art contemporains à Paris après 1945. Thèse qui, je viens de l'apprendre, donc, est déposée chez l'éditeur et qui va paraître tout prochainement. Et elle poursuit actuellement ses recherches sur l'histoire sociale et culturelle des arts plastiques au XXe siècle. Voilà, les présentations sont faites, donc je vais vous donner la parole successivement et ensuite nous verrons comment lier les différentes communications entre elles. Donc,
je vous remercie. Bien, puisqu'on parle de polyphonie, on parle de musique, et puisqu'on parle de musique, on parle d'instruments. Je vais essayer de vous présenter quelques-uns de nos instruments que nous utilisons et quels sont nos axes de travail. Le but de cette table ronde étant donc d'évoquer de nouvelles approches en histoire culturelle par le biais de certaines de nos thématiques de recherche et de souligner une polyphonie pouvant renvoyer à l'interdisciplinarité. Je souhaiterais évoquer ici les transdisciplinarités avec lesquelles nous travaillons au sein d'un dossier ANR, si l'on peut dire, par où tout est venu. Le dossier ANR Climat, Agriculture et Société Sibérienne, quelles évolutions que nous pilotons intéresse les changements futurs du climat dans la région de Sibérie orientale et plus particulièrement de Yakoutie. Véritable polyphonie disciplinaire au croisement des sciences de la nature, physique, chimie, glaciologie, biodiversité, climato, et des humanités, sociologie, économie, ethno, muséologie aussi et tant d'autres, les effets démographiques, les flux de population, les changements sociétaux, les diffusions des savoirs sont autant d'interactions entre ces sciences de la nature et les humanités. Christian Delporte évoquait hier un ADN interdisciplinaire. Nous allons voir qu'on est déjà au niveau supérieur de la vie qui se manifeste. Si d'interaction en rétroaction, ce sont autant de considérations multipolaires et multiscalaires liées aux communautés, aux peuples, aux sociétés, dans un contexte très contemporain, voire très précipité, si on se préoccupe des temporalités liées aux incidences du changement climatique, désormais la contemporanéité, c'est aujourd'hui. Pluralité et interdisciplinarité existent au travers de l'éclectisme des contributeurs. Nous parlions hier aussi d'une internationalisation des partenariats comme essence même de l'histoire culturelle contemporaine. C'est un peu le cas quand on voit la liste des contributeurs. Et pour ce dossier qui nous occupe ici, du climat à l'étude de l'atmosphère, de la glaciologie aux précipitations, les économies sociales et les économies locales sont intéressées au devenir que réservent les futurs possibles. De l'ethnologie à l'éducation, nombre de disciplines sont convoquées, notamment s'il s'agit de s'intéresser aux fragilités des communautés sédentaires ou nomades. Si les connaissances fondamentales, qu'il s'agisse des sciences de la nature ou des humanités, reposent sur une compréhension du passé, du présent et sur les projections à venir, elles ne peuvent en définitive se passer qu'au travers de croisements disciplinaires. Comme le soulignent Boutier, Passeron et Revel dans « Qu'est-ce qu'une discipline ?», alors que les subdivisions sont toujours plus poussées en même temps qu'émergent transdisciplinarité et interdisciplinarité, on peut penser que la question des frontières intellectuelles perd même jusqu'à son sens. Hier encore, n'avions-nous pas souligné avec Peter que les frontières sont mobiles ? Pascal Horry ne soulignait-il pas que le travail de l'historien était consubstantiel du présent, mais aussi du flou où chacun revendiquait un problème de définition ? Dans un tel dossier, les projections ne peuvent se construire qu'au travers des éclairages scientifiques susceptibles d'être donnés, et l'appropriation même des savoirs pose question. Ainsi, dans la complexité et l'interdépendance des savoirs en jeu, comme par exemple sensibiliser les communautés aux changements à venir, comment prévoir, comment préparer à l'évolution des sites patrimoniaux, des sites culturels ou naturels auxquels ils sont attachés, quelles lectures, mais aussi quelles interprétations leur communiquer, quel partage de savoir, quelle dissémination, quelle médiation des savoirs opérer autour d'une éducation préparatoire qui laisse vivante l'histoire tout en parlant des futurs. Les registres, on le voit, sont éminemment variés et particulièrement transdisciplinaires. De l'approche démospatiale, évolution démographique, colonisation, migration, industrie, élevage, aux enquêtes quantitatives, indicateurs, choix, méthodologie, échelle, ces futurs interrogent ce que deviendront les transports, l'occupation des sols et des territoires, ce que seront les impacts sociétaux et sociaux, environnementaux aussi. Dès lors, les évolutions culturelles et patrimoniales ne sont pas en reste dans un contexte où les patrimoines, notamment naturels, ont une place de choix et où se pose la question du devenir des lieux. Dans un tel dossier, la notion même de territoire, y compris territoire intellectuel, mérite redéfinition. Il ne s'agit plus des limites physiques ou même des frontières intellectuelles que nous connaissons, il s'agit plus des représentations traditionnelles que nous en avons. Nous sommes dans un contexte physique et intellectuel où il faut traiter par exemple des anthropisations, la transformation des espaces, des paysages, des écosystèmes sous l'action de l'homme. Dans cette démarche, il faut mettre l'homme au cœur des processus, responsable des processus, mais aussi impacté par les dits processus et acteur de son devenir. Désormais, si les frontières évoluent, les territorialisations et les cartes elles-mêmes, on le voit, évoluent. L'histoire des territoires s'écrit désormais à la vitesse de la lumière, à la cadence des photographies satellitaires. Les systèmes d'information géographique, dont vous avez ici une présentation, ces outils indispensables à la compréhension des évolutions, s'imposent désormais dans une histoire contemporaine où les évolutions ont des répercussions sociales et sociétales, culturelles, que le temps du recul ne permet plus d'analyser. Désormais, caractériser et définir les territoires et leurs cultures, c'est en partager tout aussi vite les connaissances et leurs évolutions immédiates. Une situation qui, au-delà de l'histoire, interpelle cette fois les champs de la sémiotique. Quelle production de connaissances, quel partage, quelle codification donner à des informations qui deviennent dynamiques et plastiques? Comment les rendre accessibles aux experts, aux profanes? Nous évoquions hier la parole donnée aux archives populaires, aux sans-grades, la place primordiale qui devait être consacrée au territoire, comment partager ses connaissances et ses savoirs sans recourir à de nouveaux outils ou de nouvelles représentations qui restent à inventer. Quelle communication de signes instaurer à l'ère où le partage mondialisé nécessite des compréhensions mutuelles, croisées, voire universelles, où l'Internet contributif accroît démesurément la connaissance, où le smartphone permet de lire autant qu'il permet de déposer de l'information. Mais que déposer? Que lire? Comment l'interpréter? Quel sens donner? D'ailleurs, simplement, s'est-on interrogé sur comment faire sens? Dans une approche transdisciplinaire, les interactions prétendues frontières sont presque les plus importantes. Les savoirs ne sont plus le seul cumul des connaissances, et le savoir traditionnellement rondellisé n'est plus égal à la somme des rondelles. Les interactions entre les rondelles deviennent tout aussi importantes que les contenus. On en vient à interroger les systémiques et tenter des réflexions lucides et élaborées sur les choix des savoirs eux-mêmes. Ainsi, quelles dominantes disciplinaires privilégier et quelles interdisciplinarités construire? Quels filtres disciplinaires? Quelle mobilisation des savoirs? Pour quelle confrontation ultérieure? Quelle production de nouvelles connaissances? Quelle place donner au savoir profane tout aussi riche? Où sont les logiques de rupture dans cet ensemble de superpositions? D'où émergent les risques de nouvelles pratiques? Que deviennent et comment évoluent les représentations collectives dont Christian parlait hier dans ces cadres interdépendants? On le voit, le transfert et le partage de connaissances est indissociable des champs interdisciplinaires. La médiation des savoirs, notamment, devient incontournable de l'acquisition des connaissances, des interprétations et des enjeux culturels contemporains. S'il s'agit de mettre les enseignements disciplinaires au service des finalités éducatives, il faut le faire dans un cadre de changement de statut des disciplines. Il s'agit de passer d'une logique d'appropriation de parcelles de savoir à une logique de contribution à des objectifs. N'est-ce pas aussi cela une contemporanéité créatrice? Les enjeux éducatifs, notamment, tiennent aux passerelles qui seront à construire entre les disciplines dans une volonté de donner sens à la culture. En construisant des ponts indispensables entre disciplines, il convient de comprendre et de décrire le monde réel dans sa complexité contemporaine pour que l'apprenant de 7 à 77 ans soit en mesure de comprendre pour agir. Comme le rappelle Piaget, il faut inscrire l'adaptation dans une équilibration antagoniste entre accommodation du soi au réel et assimilation du réel à soi. Mais quel référentiel établir? Plus simplement encore, la notion même de référentiel a encore un sens dans ces systèmes complexes où la bipolarité n'a plus de raison d'être, alors que tout procède d'une recherche d'optima. La réponse est peut-être dans la volonté de réinvestir les transversalités, à même de servir la vie sociale, les choix, les conséquences, les consciences, les esprits critiques, la construction des valeurs, les acquisitions de comportements, les dimensions éthiques et intergénérationnelles, la co-citoyenneté lucide et éclairée. La liste est ouverte. Il s'agit certainement de s'interroger sur les articulations aussi, les leviers, les rouages, d'une, on va appeler ça, homéostasie socioculturelle, contemporaine. On a évoqué hier l'invasion de la biologie dans le culturel, et c'est peut-être dans cette interaction qu'il faut la chercher. On a parlé de la construction culturelle des émotions, on pourrait évoquer aussi les évolutions biologiques liées aux interactions émotionnelles avec le milieu, ce que les neurosciences que nous interpellions chercheront peut-être à identifier. Quelle homéostasie pour quelle socioculture ? Le réel développement culturel des sociétés conduit plus que jamais à une fabrique du social, pour laquelle les collectifs d'acteurs, parce qu'ils désirent précisément s'émanciper des routines, de la dimension normative de l'action ordinaire, ne sont plus désormais seulement des réceptacles de savoir théorique, mais produisent aussi par réflexivité, par leur propre contribution, une réelle activité de recherche. Il ne s'agit plus, dès lors, d'opposer les savoirs théoriques des chercheurs aux savoirs d'expérience et d'action des acteurs, mais d'envisager autrement de stimulantes complémentarités en reconnaissant, par exemple, le caractère proprement créatif des mobilisations citoyennes et l'ensemble des pratiques de recherche qui les alimentent dans une reconsidération tant de l'apport original des collectifs d'acteurs que des apports singuliers de la recherche académique dans une nouvelle répartition, non pas des savoirs, mais des contributions. Au regard de cette complexité, un rôle majeur, là encore, est donné à la médiation des savoirs. Rivière qui sépare et pont qui relie, la médiation culturelle, je cite, regroupe l'ensemble des actions qui visent à réduire l'écart entre l'œuvre, l'objet d'art ou de culture, les publics et les populations. La médiation désigne la rencontre et désigne aussi une situation de communication, d'échange, où les moyens d'interprétation qu'elle génère induisent des relations plurielles, multidimensionnelles, transversales et transdisciplinaires. De fait, la médiation agit aussi dans un contexte très contemporain. En effet, l'information et la production culturelle se sont largement démultipliées et s'offrent aujourd'hui à nous de façon surabondante et concurrentielle. L'accessibilité aux sources et aux savoirs d'information semble à la fois aisée et illimitée. Pourtant, devant un tel étourdissement, nous manquons bien souvent de repères face à des savoirs ou face à des situations d'une complexité inouïe qu'il est bien difficile d'appréhender. De traduction-explication des savoirs savants, à vocation de passeur, les connaissances des usages et des valeurs des élites, la médiation des savoirs, toujours elle, s'associe plus volontiers à la notion d'interprétation en apportant les outils nécessaires à la construction d'un véritable regard critique et actif, impliquant toutes les dimensions de l'être dans son inscription sociale et culturelle. Par ses fonctions, et répondant aux questionnements évoqués précédemment, elle contribue dans une visée démocratique à la construction partagée de culture en devenir. En tant que posture éthique, la médiation qui sous-tend toute démarche de mise en œuvre de projets culturels ne peut se satisfaire d'une bonne conscience condescendante. Elle donne à découvrir, à connaître, à comprendre, à entendre, à toucher, à voir, à éprouver, à sentir, à penser. Elle relève d'une citoyenneté ouverte, non discriminante, partagée, avisée, critique et responsable, en assurant un accompagnement qui contribue au tissage relationnel. Elle ne saurait se limiter à faciliter la consommation, quand bien même fût-elle culturelle, ou à vulgariser des savoirs savants pour une meilleure assimilation du discours. Non. Elle se doit de construire de manière très contemporaine, mais aussi très aboutie, un dialogue entre les personnes à partir des objets culturels d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Par son éducation informelle, la connaissance qu'elle véhicule ne se transmet pas, mais désormais se construit par l'individu, dans une mise en œuvre qui lui est unique et totalement personnelle, usant d'une approche, là encore, homéostasique et socioculturelle de l'homme dans son environnement. Une homéostasie socioculturelle au travers de laquelle il va comprendre, raisonner, construire, prédire et agir. Une homéostasie au travers de laquelle il va faire montre de savoir être, pour un savoir devenir. Une homéostasie pour laquelle le cadre d'apprentissage dans l'action nécessite aussi une réflexion sur l'action elle-même, un méta-apprentissage donc. On le voit, entre climatologie, conditions socio-économiques, lecture et interprétation, les liens homme-nature sont au cœur de nos réflexions. Les patrimoines et leur préservation sont omniprésents, sont interpellés au travers d'approches culturelles et interculturelles qui nécessitent le recours même au centre d'interprétation. Les transdisciplinarités évoquées ici nécessitent un rapport au savoir et une éducation formelle renouvelée ou un rôle de veille, et la constitution d'observatoires s'impose aussi, où les outils nécessaires à l'accès des savoirs partagés doivent désormais être pensés, où le savoir profane se fait l'égal du savoir expert, comme le souligne De Morgon dans Une épistémologie sans frontières, complexité des antagonismes de la nature à l'histoire. Si l'histoire est mi-destructrice, mi-régulatrice, c'est qu'au milieu, elle établit des constructions qui, ne devenant jamais des régulations, doivent être entretenues, réparées, modifiées et développées, le tout sur la base d'échecs cumulés. Il importe d'imprégner les cultures et éducations de cette plasticité nécessaire. Au-delà de cette ANR, ces réflexions transdisciplinaires sont devenues transfrontalières. Dans un ensemble de travaux internationaux, un programme de recherche sur les patrimoines culturels et naturels portant sur les processus climatiques et la mondialisation dans le cadre comparatiste Sibérie, Scandinavie, Patagonie, vient de débuter. Un élargissement de ces réflexions dans le cadre d'autres programmes liés aux sites d'éducation et de musées protégés traiteront de la valorisation des études relatives au patrimoine naturel et culturel dans les zones géographiques comparées d'Amérique latine, de Russie et de l'Union européenne. Un programme indépendant sur les zones euro-méditerranéennes prend corps. Le plan énergie-climat territoriaux nécessite eux aussi des transdisciplinarités qui vont de l'Amérique latine aux Caraïbes. L'histoire culturelle des sociétés contemporaines s'exporte bien. Si dans ces logiques floues, nous ne savons en réalité plus exactement ce que signifie l'histoire culturelle contemporaine, seule certitude cependant, nous savons que les chantiers sont particulièrement chargés et les enjeux des plus importants. La transdisciplinarité, ça n'est pas de la tarte, disait hier Pascal Horry. L'histoire culturelle non plus. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour, je dois dire, cette approche extrêmement stimulante qui montre une sorte d'histoire culturelle en acte, avec ce dialogue extrêmement stimulant entre la pensée scientifique et l'approche culturaliste. Je crois qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Sans transition, je donne la parole à Serge Linares pour sa propre tonalité dans cette
Merci, polyphonie. Monsieur le Président. Bien, alors moi, je ne vais pas construire mon propos dans cet esprit-là. C'est-à-dire que je n'ai pas bâti une communication. Je voudrais d'abord présenter rapidement ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'aimerais parler de deux projets dont je suis un des porteurs et qui recoupent évidemment l'histoire culturelle. Alors d'abord, évidemment, il ne s'agit pas de transformer un littéraire en historien culturaliste. Ce serait usurper les prérogatives d'autres et ça n'est pas mon objet. Voilà pourquoi je sélectionnerai dans ce que j'ai pu faire ce qui peut recouper, me semble-t-il, vos approches à vous.